VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 15 août 2022. Avec vous, Eric Maniakiza, voici d'abord le sommaire. Au Kenya, William Ruto, élu sur le fil président du pays, dans une ambiance chaotique, il promet de travailler avec tous les leaders politiques. Première visite officielle du président sénégalais Macky Sall au Mali, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires. L'armée française quitte le Mali après plus de 9 ans d'intervention militaire pour lutter dans le Sahel contre les mouvements islamistes. Au Mali, la justice confirme l'inculpation des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako. Des soldats burundais déployés dans l'est de la RDC pour traquer des groupes armés locaux et étrangers. Des parlementaires américains à Taïwan, la Chine relance ses manœuvres militaires. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. William Ruto est déclaré vainqueur de la présidentielle au Kenya par la commission électorale lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans un climat tendu. L'actuel vice-président a obtenu 50,49% des voix devant l'opposant historique Raila Odinga qui a eu 48,85% des suffrages. Le point avec Abdourahman Dia.
Le président de la commission électorale du Kenya a finalement lu les résultats dans une ambiance électrique après 6 jours d'attente et le rejet des résultats par une partie de cet organe indépendant. Wafula Chebukati a annoncé que le vice-président sortant William Ruto avait cumulé plus de 7,17 millions de votes contre 6,94 millions pour Odinga. Ruto remporte donc l'une des élections les plus serrées de l'histoire du pays. Si ces résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle, l'opposant historique n'aura donc pas réussi à succéder à son ancien rival Uhuru Kenyatta, qu'il a pourtant soutenu au détriment de son vice-président William Ruto. On devrait en tout cas s'attendre à des recours de son camp. Déjà, 4 des 7 membres de la commission électorale ont rejeté les résultats avant même qu'ils ne soient publiés. La vice-présidente Juliana Cherera, entourée de 3 autres commissaires, a dénoncé ce qu'elle appelle le caractère opaque du processus et donc ils ne pourront pas assumer la responsabilité des résultats qui vont être annoncés. Au cours du week-end, les appels au calme se sont multipliés, le Kenya ayant connu dans le passé des crises post-électorales sanglantes.
Le président du Sénégal, Macky Sall, et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Bamako aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bamako, il a été accueilli par le président de la transition, Assimi Goïta. Les précisions avec Mohamed Danioko.
C'est aux environs de 10 heures que le vol du président sénégalais Macky Sall a atterri à l'aéroport international Bamako Modibo Keïta Senou. Accompagné d'une forte délégation, il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le gouverneur et le maire du district de Bamako. À sa descente d'avion, le président sénégalais dira qu'il est porteur d'un message d'amitié, de bon voisinage à l'endroit d'un pays pivot en Afrique de l'Ouest et aussi avoir des échanges avec les autorités de la transition pour une issue heureuse et pour que le Mali retrouve totalement sa place dans le concert des nations. La délégation a ensuite pris la route du palais de Koulouba où les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la discussion aux 2 délégations. Au terme de cette visite d'amitié et de travail, Macky Sall s'est dit très confiant à l'avenir. Il a rassuré le peuple malien du soutien de son pays et a aussi salué les efforts des autorités de la transition, des efforts qui ont concouru à la levée des sanctions le 3 juillet dernier. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
La France a annoncé avoir achevé lundi matin le retrait de ses troupes du Mali avec le départ du pays des derniers soldats français de Barkhane. Après 9 ans de présence dans le pays pour lutter dans le Sahel contre les mouvements islamistes, les derniers soldats français ont franchi dans la matinée la frontière avec le Niger après avoir transféré leur dernière base située à Gao aux forces maliennes, a précisé dans un communiqué l'état-major français des armées. La France reste engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme, a précisé l'Élysée dans un communiqué. La justice malienne a inculpé et écroué les 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako. Ils sont placés sous mandat de dépôt pour des faits de crimes d'association, de malfaiteurs, d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention pour et transport d'armes et de guerre et de complicité de ces crimes, a indiqué le procureur Samba Sissoko dans un communiqué. Les militaires au pouvoir au Mali les accusent d'être des mercenaires, ce que nie Abidjan. La négociation semblait pourtant la voie privilégiée pour obtenir la libération de ces 49 soldats arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à l'aéroport de Bamako. Le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais de premières négociations le 28 juillet à Lomé n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Le gouvernement ivoirien assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU et exige leur libération. Le Mali est en proie à un climat délétère avec un rétrécissement de l'espace civique et une forte hausse des violations des droits humains par les groupes extrémistes et les forces de sécurité maliennes, a affirmé lundi un expert de l'ONU. Après une visite de 10 jours dans le pays, Alioune Tine a noté par ailleurs la résurgence et la fréquence des attaques et des violences commises par des groupes extrémistes violents dans le nord du pays, dans le centre et autour de la capitale Bamako. Un contingent de l'armée burundaise est déployé dans l'est de la RDC pour traquer des groupes armés locaux et étrangers. C'est dans le cadre d'un processus de paix voulu par des chefs d'État de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est a annoncé dimanche l'armée congolaise. Nani Tetalani.
Depuis ce lundi 15 août 2022, le contingent des forces de défense du Burundi est entré officiellement en RDC dans le cadre de la mutualisation des forces prônée par les chefs d'État de l'EAC, a annoncé le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée congolaise au sud de Kivu. Constitué d'un nombre important des militaires, le contingent est placé sous le commandement des FRDC. Il est cantonné actuellement dans un centre d'instruction d'Uvira, une région frontalière du Burundi. Ces soldats et leurs homologues congolais ont pour mission de traquer tous les groupes armés étrangers et locaux afin de restaurer la paix promise dans l'Est congolais. Le chef des opérations militaires dans le sud de Kivu, le général Ramazoni Fundi, appelle la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes pour mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières. En juin, des chefs d'État membres de l'EAC ont décidé de mettre sur pied une force régionale devant travailler avec l'armée congolaise en vue d'éradiquer les violences des groupes armés dans l'est de la RDC. Mais Kinshasa refuse que les soldats rwandais fassent partie de cette force.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a annoncé avoir organisé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan. 5 parlementaires américains sont en visite dans l'île 2 semaines après la venue de Nancy Pelosi qui a déclenché la colère de Pékin. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'armée populaire de libération a organisé une patrouille de préparation au combat interarmé et des exercices de combat dans la mer et l'espace aérien autour de Taïwan. C'est ce qu'indique un communiqué de l'armée chinoise. La délégation de parlementaires américains est arrivée hier à Taipei et a rencontré ce lundi la présidente de l'île, Tsai Ing-wen. Selon l'Institut américain à Taïwan, ce déplacement de 2 jours porte sur le commerce, la sécurité de la région et le changement climatique. Il survient moins de 2 semaines après la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, sur cette île. Taipei accuse Pékin de prétexter de la visite de Mme Pelosi pour s'entraîner à une invasion. Selon l'armée chinoise, les manœuvres de ce lundi constituent une dissuasion solennelle contre les États-Unis et Taïwan qui sapent la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. La dirigeante taïwanaise dit souhaiter le statu quo et la stabilité dans le détroit de Taïwan et en Asie-Pacifique. La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces et ne veut donc pas de contact officiel entre l'île et d'autres pays.
L'Iran a nié lundi catégoriquement toute implication dans l'attaque au couteau perpétrée aux États-Unis contre Salman Rushdie. Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Téhéran a fait porter la responsabilité à l'auteur des versets sataniques 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Khamenei, condamnant à mort l'écrivain. Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que son pays ferait part lundi de ses propositions finales sur le dossier nucléaire après que, selon lui, les États-Unis ont accepté des exigences iraniennes. Il n'a pas précisé les exigences auxquelles il faisait allusion. La justice néerlandaise rendra son verdict le 17 novembre dans le procès du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui survolait l'est de l'Ukraine en 2014, a annoncé lundi le tribunal à Lai. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
La firme américaine Apple a lancé le 12 août à Douala au Cameroun son tout premier centre d'expérience agréé en Afrique centrale. Grâce à cet iCenter, explique la firme, les clients auront accès à tous les produits de la marque et pourront bénéficier de l'assistance d'un ingénieur certifié. Ce sera aussi un centre pour établir des partenariats avec les entreprises camerounaises. Au Mali, le gouvernement a lancé ce lundi 15 août une nouvelle émission par appel à l'épargne publique d'un montant de 200 milliards de francs CFA. Le taux d'intérêt nominal de l'emprunt, indique Financial Afrique, est de 6,2% par an pour une maturité de 10 ans avec 3 ans de différé. Cette émission a pour objet de mobiliser les ressources en vue d'assurer le financement d'infrastructures de développement prévues au budget 2022. Les prix du pétrole accentuaient leurs pertes lundi après que le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que son pays enverrait ses propositions finales sur le dossier nucléaire avant 19h30 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord perdait 5,18% et le baril de West Texas Intermediate américain cédait quant à lui 5,27%. Le marché de l'or noir est focalisé sur les négociations autour de l'accord sur le nucléaire iranien qui pourrait conduire à la fin des sanctions pour ce membre clé de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Week-end prolifique pour des footballeurs africains en Europe.
Oui, le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a démarré sa carrière à Chelsea en marquant lors de ses débuts à domicile lors d'un match nul 2-2 avec Tottenham. Le Nigérian Taiwo Awoniyi a commencé à justifier les 21 millions de dollars qu'il a coûté à Nottingham Forest avec son unique but qui a permis au promu de battre West Ham 1-0 en Premier League. De son côté, Joe Aribo, un autre international nigérien, a marqué un but qui a aidé Southampton à arracher le match nul 2-2 contre Leeds. En Italie, Ademola Lookman a permis à l'Atalanta de s'imposer 2-0 face à la Sampdoria. L'international nigérien a conclu une contre-attaque rapide lancée dans les arrêts de jeu. Toujours en Serie A, le Gambien Hassan Cizé a fait rêver les fans de Lecce, inscrivant un but même si son équipe a fini par s'incliner 2-1 devant l'Inter Milan.
Yacouba, cette affaire judiciaire qui se poursuit, Benjamin Mendy présenté comme un prédateur.
C'est ainsi que l'accusation décrit le champion du monde de football poursuivi pour viol en Angleterre, où s'est ouvert la semaine dernière son procès. Le parquet accuse Benjamin Mendy d'avoir abusé de victimes vulnérables, terrifiées et isolées. Le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est jugé à Chester pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Il nie les 10 chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Presbury. Le procès devrait durer plus de 3 mois. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité.
Avant de nous quitter, Yacouba, Britney Grimmer, condamnée en Russie, elle décide de faire appel.
C'est ce qu'indiquent les avocats de la basketteuse américaine condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de cannabis. La date du procès en appel n'est pas encore connue dans l'immédiat. Considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket du monde, Britney Grimmer, 31 ans, a été arrêtée en février à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Elle a reconnu avoir été en possession de cette substance, affirmant toutefois l'avoir apportée en Russie par inadvertance et l'utiliser légalement aux États-Unis comme antidouleur. Elle était venue en Russie pour jouer pendant l'intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses de la WNBA. La sportive fait partie de plusieurs citoyens américains actuellement détenus en Russie et dont Washington veut obtenir la libération.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kidza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Au Kenya, c'est donc le vice-président sortant William Ruto qui devrait remplacer Uhuru Kenyatta si les résultats de la commission électorale sont confirmés par la Cour constitutionnelle. La cinquième candidature de l'opposant Raila Odinga ne sera donc pas la bonne malgré le soutien de son ancien rival politique, le président Uhuru Kenyatta. Pour une première analyse de ces résultats, Abdulrahman Dia a joint à Kinshasa Danny Aida, directeur pays du NDI, National Democratic Institute, en RDC, qui suit également de près la situation au Kenya.
Le candidat Ruto était un challenger sérieux du moment où il s'appuyait sur un appareil politique assez rodé, sur des alliances stratégiques qui étaient nouées pendant longtemps au cours donc du mandat passé. Et on sait qu'une grande partie de la majorité n'était pas d'accord avec le choix du président Kenyatta de soutenir l'adversaire de toujours Odinga. Ceci dit, le déroulement de l'élection, les six derniers jours, quand même, a montré que les résultats étaient assez proches. Les deux candidats étaient au coude à coude. Et au final, le résultat qui est donné, quoique cela donne l'occasion à des contestations, même à l'intérieur de la commission électorale, nous prouve que le Kenya est une démocratie en construction qui avance, mais il y a encore un certain nombre de cueils. Vous vous rappelez, il y a 5 ans, la Cour suprême a dû intervenir pour invalider les résultats. Donc, on ne sait pas encore si c'est un résultat qui vient d'être connu, sont vraiment les derniers, les définitifs.
C'est la première fois qu'une élection présidentielle se tient au Kenya sans un membre de l'ethnie majoritaire, les Kikuyu. Alors, on a l'impression que le transfert de voix n'a pas fonctionné malgré. Donc, on a vu que le président Kenyatta avait soutenu son ancien adversaire.
Je crois que le fait aussi que l'abstention était assez forte comparée aux élections passées démontre en même temps qu'il n'y a pas d'automatisme dans les appels de vote, les conseils donnés, y compris par le président sortant. Il y a d'autres facteurs qui interviennent dans le choix des électeurs kenyans désormais.
L'attente de la publication des résultats a duré 6 jours, ce qui a contribué un peu à la montée de la tension malgré le choix de la commission électorale d'utiliser la technologie. Comment est-ce que vous expliquez cette longue attente?
Vous remarquerez que c'est le président de la commission électorale qui a proclamé le président élu au moment où la vice-présidente est contre cela, en déclarant qu'il y a eu une opacité dans le traitement. 4 membres de la commission électorale sur 7 ne sont pas d'accord avec les résultats. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de la commission électorale, la gestion des résultats électoraux a posé problème. Pas certainement au niveau de la technologie. Et certains ont parlé de pression que les partis politiques feraient sur les membres de la commission ou bien des influences qui viendraient dans le processus de transmission ou de centralisation des résultats. Et le chaos qui se déroule en ce moment autour de la commission électorale démontre quand même qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ce système électoral kényan.
C'était Danny Aida, directeur pays du NDI, National Democratic Institute, en RDC. L'armée congolaise a annoncé aujourd'hui le déploiement d'un contingent de l'armée burundaise dans l'est de la RDC pour traquer des groupes armés locaux et étrangers dans le cadre du processus de paix voulu par des chefs d'État de l'EAC. Eddy Isango a joint à Bruxelles un chercheur en matière de sécurité et défense, Jean-Jacques Wando.
Cette information n'est pas un scoop, si je peux ainsi m'exprimer, parce que récemment, on a eu des rapports et des documents qui ont été publiés par un groupe d'ONG qui faisait état de la présence de l'armée burundaise au Congo. Et je peux vous dire aussi que ce n'est pas non plus une plénière parce que l'armée burundaise a à plusieurs reprises franchi les frontières de la RDC pour aller traquer le groupe rebelle qui sont au niveau de la Ruzizi, la peine Ruzizi, et même jusqu'à l'intérieur des plateaux du Kivu. Et le fait d'avoir autorisé ça dans les cas de CIGL, ben, ça peut paraître surprenant, mais c'est la manière, parce qu'une armée ne peut pas opérer dans un pays étranger sans respecter toute une série de procédures, notamment des procédures législatives, l'information qui doit être faite au Parlement. Oh, actuellement, l'Assemblée nationale, les parlementaires sont en vacances parlementaires. Donc c'est là qu'on peut se poser des questions sur la procédure qui a été initiée pour permettre à ce que ces troupes viennent opérer en RDC.
Cela, comme cela a été bien décidé par le chef d'État de l'EAC, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, mais pourquoi l'armée congolaise, qu'est-ce qui explique que l'armée congolaise l'ait annoncé seulement aujourd'hui alors que les ONG l'avaient déjà annoncé?
Ben, je pense que l'armée congolaise a été mise devant le fait accompli. Les décisions qui ont été prises au niveau de l'EAC, mais ça, c'est plutôt une décision au départ de mettre en place une force internationale qui devait intervenir. Or, ici, on a plutôt une armée burundaise qui intervient. Et cette armée, comme je l'ai dit, n'intervient pas seulement aujourd'hui. Sa présence sur le sol congolais a été constatée depuis plusieurs jours. Et le fait que cela est su, pas seulement par les ONG, mais par la population, et on a essayé de couvrir ça sous la responsabilité de l'EAC, alors que nous savons que la présence de l'armée burundaise dans cette partie risque aussi de susciter plutôt des réticences d'autres pays de la région, notamment le Rwanda.
Jean-Jacques Wando, chercheur en matière de sécurité et défense, joint à Bruxelles.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, dont la dissolution a été annoncée par le gouvernement, n'entend pas abdiquer. Le mouvement d'opposition, fer de lance des contestations contre le changement de constitution, s'oppose à la junte depuis plusieurs mois et réclame à coups de manifestation la mise en place d'un cadre du dialogue inclusif en vue de l'obtention d'une durée consensuelle de la transition. Réaction à Conakry au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Le mouvement est accusé d'organiser des actions violentes sur la voie publique au cours de manifestations interdites. Selon le gouvernement guinéen, ces actions mettent en péril l'unité nationale. Mais pour ce citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry, une décision ne peut dissoudre ce qu'il appelle état d'esprit.
Le FNDC, c'est un état d'esprit. La population adhère à cette idée. C'est tout un peuple, quoi, parce que la majorité de la jeunesse soutient le FNDC. Et la population adhère toujours à cette organisation. La dissolution n'est pas la solution.
Solution ou pas, pour Mamadou Montes-Diakité, consultant juridique, le ministre guinéen de l'administration du territoire peut bien dissoudre toute association qui agit contre l'ordre public.
L'article 34 de la loi L03 qui gouverne les associations et les ONG permet au ministre de l'administration de pouvoir dissoudre une association qui agit en violation de la loi, qui incite à la violence, qui rentre dans des activités qui vont contre l'ordre public. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le FNDC, le comportement du FNDC rentre dans ce cadre. C'est l'appréciation du ministre. Si ce n'est pas celle des membres du FNDC, je pense qu'ils doivent porter un recours.
La dissolution du FNDC pourrait amener les partis politiques à prendre l'initiative des manifestations de rue, estime le politologue Kabiné Fofana.
Le fait de dissoudre le FNDC va donc amener les partis politiques qui sont eux légalement constitués et reconnus de ce fait de reprendre dorénavant le flambeau, donc de ne plus se planquer derrière le FNDC pour appeler à manifester. Les partis politiques vont devoir maintenant eux-mêmes, si toutefois ils restent dans la dynamique du FNDC, dans les revendications du FNDC eux-mêmes, et appeler à manifester puisque le FNDC, du point de vue légal, n'existe plus.
Le 28 juillet dernier, le FNDC a appelé à des manifestations de rue. Des violences ont été signalées dans certains quartiers de la capitale, 5 personnes ont été tuées. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Les parlementaires américains continuent de réagir à la perquisition effectuée par la FBI dans la résidence de l'ancien président Donald Trump en Floride. Le mandat de perquisition mentionne entre autres une enquête sur des violations potentielles de la loi sur l'espionnage. Donald Trump et ses partisans ont rapidement décrit un acte politiquement motivé. Le reportage est d'Arash Arabassadi et récit signé Jean-Roger Bion.
Le FBI a opéré des fouilles lundi dernier à Mar-a-Lago, la résidence privée et le club de golf de l'ancien président Donald Trump. En présence de l'avocat de M. Trump, les agents fédéraux ont ouvert un coffre-fort dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il a emporté des documents classifiés de la Maison-Blanche. Le député Adam Schiff, un démocrate, s'exprimant dimanche sur CBS dans l'émission Face the Nation.
Some of those documents were marked top secret, sensitive compartmented information.
Certains de ces documents portaient la mention très secret et information sensible compartimentée. Cela fait partie de la désignation la plus élevée en termes de dommages extrêmement graves pour la sécurité nationale qui pourraient être causés s'ils étaient divulgués. Donc, le fait qu'ils se trouvaient dans un endroit non sécurisé, c'est-à-dire gardé par rien de plus qu'un cadenas ou la sécurité dont ils disposaient dans un hôtel, est profondément alarmant.
Donald Trump et ses partisans ont rapidement crié à l'injustice, affirmant que la perquisition était un abus de pouvoir à motivation politique, une affirmation que la Maison-Blanche rejette. Karine Jean, porte-parole de la Maison-Blanche, s'exprimant dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
I would remind folks on the other side that the FBI director was appointed by the president's predecessor.
Je rappelle aux républicains que le directeur du FBI a été nommé par le prédécesseur du président Biden, en l'occurrence monsieur Trump. Je rappelle aux gens de l'autre côté que lorsque Merrick Garland, le ministre de la Justice, a été confirmé, c'était de manière bipartisane.
La secrétaire de presse de la Maison Blanche a ajouté que l'administration Biden à une politique de non-interférence dans les affaires du ministère de la Justice. Bien que les avocats de l'ancien président aient reçu des copies du mandat de perquisition, ils ont ouvertement demandé au ministre Merrick Garland de le rendre public. M. Garland a par ailleurs dit qu'il avait personnellement autorisé le mandat de perquisition et que conformément à la loi et à la requête formulée en public par Donald Trump, il avait demandé à un juge de déceler les documents. Pendant ce temps, M. Trump retournait à New York cette semaine dans le cadre d'une enquête distincte sur ses transactions immobilières, conserve un soutien solide de ses collègues républicains au Capitole. Le député républicain Mike Turner s'exprimant dimanche dans l'émission State of the Union sur CNN.
How do you feel, Mr. Trump? How do you feel?
We don't have to speculate. We have all the clearance. Congress has all the powers of oversight.
Nous n'avons pas à spéculer. Nous avons toutes les autorisations nécessaires. Le Congrès a tous les pouvoirs de surveillance. Tout ce que le ministre de la Justice doit faire est de se conformer aux lois. Nous fournir cette information, laissez-nous regarder, montrez-nous l'objet du délit, démocrate ou républicain, demande que le ministre de la Justice, Garland, nous présente du factuel. Nous devons déterminer si ça constitue une menace pour la sécurité nationale. Et comme nous viserons également s'il y a eu abus de pouvoir de la part du ministre Garland.
Les républicains ont demandé des informations plus détaillées sur ce qui a conduit un juge fédéral a autorisé la perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Gisèle Morissin et à Lionel Vlamira Gaïma pour la mise en onde et la réalisation de cette édition, ainsi qu'à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakis à la présentation, ici dans le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com et sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.